إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طيب، فنواصل إن شاء الله تعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. طيب، فقال الناظم رحمه الله تعالى: والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد سبت الحسن، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النظير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعدي، وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما، كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم، قيل ورجمه اليهوديين، ومولد سبط الرضا الحسيني. وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق، ودومة الجندل قبل وحصل، عقد بنات الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة، وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد. فتوقفنا هنا في درسنا الماضي، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وذو قرد. وقبل ذلك اعلموا إننا قد ذكرنا بحمد الله سبحانه وتعالى لما فرغ الناظم من حوادث سنة الرابعة شرع يذكر حوادث سنة الخامسة من حوادث السيرة النبوية، فذكر أربعة حوادث. donc on va résumer un peu avant de continuer إن شاء الله تعالى les différents événements que l'on a déjà donc mentionné durant nos cours. Donc il faut savoir que après que l'auteur rahimahullah ta'ala avait fini donc de mentionner les événements de la quatrième année des l'Hégire, il a donc logiquement commencé à mentionner ceux de la cinquième année des l'Hégire. Donc durant la cinquième année, al-hadithatul ula ghazwatu bani al-mustaliq. Donc le premier événement qu'il mentionne de la cinquième année, c'est l'expédition militaire appelée Bani al-Mustaliq. La deuxième, Ghazwatu Dumat al-Jandal. Le deuxième, la Ghazwa appelée Dumat al-Jandal. La troisième, Zawajuhu min Ibnat al-Harithi wa hiya Juwayriya bint al-Haritha. Le troisième événement, le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec la fille de l'Harith, c'est-à-dire Juwayriya bint al-Harith. Al-Rabi'a, aqduhu ala Rayhanata, wa hiya Rayhanatu bint Zayd. Et le quatrième et dernier événement mentionné par l'auteur de la cinquième année, son mariage avec Rayhana, autrement dit Rayhana bint Zayd. فلما فرغ المصنف رحمه الله من حوادث السنة الخامسة من الهجرة شرع يذكر بعدها حوادث السنة السادسة فذكر سبع حوادث. الأولى غزوة بني لحيان. Puis donc après avoir terminé la mention des événements de la cinquième année, il commence donc à citer ceux de la sixième année. Qui sont? Il y en a sept en tout. Le premier, c'est la ghazwa, l'expédition militaire appelée Bani Lihyan. Bani Lihyan, donc, dont on a parlé déjà la semaine dernière. Thaniya al-istisqa. Le deuxième, al-istisqa, c'est-à-dire lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a demandé donc la pluie à Allah tabaraka wa ta'ala, car les musulmans étaient dans une période de très grande sécheresse. Tayyib. Non. Tayyib. Thalitha, ghazwatu ذي قرد. Donc le troisième événement dont on va parler maintenant inshallah ta'ala, qui est la ghazwa de ذي قرد. طيب. فقال الناظم رحمه الله وذو قرد اي وغزوه ذي قرد وكانت بعد غزوه بني نحيان بليال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة ابن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي عليه الصلاة والسلام التي بالغابة فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار وأخذوا امرأته فكان أول من نذر بهم سلمة ابن عمرو ابن الأوكاع الأسلمي رضي الله عنه ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها أنا ابن الأوكاع واليوم يوم رضع يعني اللئام واسترجع عامة مكان في أيديهم. طيب. Donc, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, وذو قرد, c'est-à-dire la ghazwa, l'expédition militaire de ذي قرد, qui s'est donc déroulée, on le comprend par rapport à la chronologie ici, après l'expédition militaire de Bani Lihyan, yani plusieurs nuits après. Il dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Fusul, il dit ensuite, après son arrivée à Médine, après plusieurs nuits, Uyayna Ibn Hisn, donc un certain Uyayna Ibn Hisn, issu de la tribu de Ratafan, a lancer un assaut contre les chamelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-liqah, ce sont les chamelles qui ont du lait. Donc les chamelles qui ont du lait, on les appelle al-liqah. Donc il a attaqué ces bêtes qui se trouvaient donc dans une terre qui était assez basse, et donc il les a dirigées. Et il a même tué le berger qui était en train de les garder, et qui était un homme donc de la tribu des Rifar. Et donc lui, Uyayna ibn Hisn, ainsi que ceux qui étaient avec lui, parmi les cavaliers qui étaient avec lui, ils ont même donc kidnappé l'épouse de ce berger. Taïeb. Et le premier Donc, parmi les musulmans qui a été averti de ce qu'ils ont fait, c'est Salama ibn Amr ibn al-Awqa' al-Aslami. Salama ibn Amr ibn al-Awqa' al-Aslami, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est donc lancé à leur poursuite alors qu'il était à pied. Alors qu'il était à pied. Et il a réussi à les rattraper, yani, et il a même donc tiré des flèches sur eux et il disait, prenez ça, je suis Ibn al-Awqa' et aujourd'hui c'est le jour de Ar-Ridha. C'est le jour de Ar-Ridha. Disait les cheikhs, Ar-Ridha, c'est-à-dire Al-Li'am. C'est le jour de Al-Li'am. Naam. Le jour des mauvaises personnes. D'accord? Et aujourd'hui, c'est le jour des mauvaises personnes. Ou. Naam. طيب وهكذا. Et il faut savoir donc que Salama ibn Amr a réussi à ramener la plupart des choses qu'ils avaient prises et qui étaient entre leurs mains. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان فلاحقوا سلمة ابن الأوكع واسترجعوا اللقاح وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء يقال له ذو قرد فنحر لقحة مما استرجع وقام هناك يوما وليلة ثم رجع إلى المدينة. Puis pour finir, il dit, lorsque les gens de Médine ont été avertis de tout ça, eh bien c'est là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec un groupe de cavaliers. Et donc ils ont rejoint Salama ibn al-Awqa' et ils ont ramené donc les chamelles qui avaient été prises. Et le prophète donc est arrivé à un point d'eau que l'on appelle Dhuqarad. Donc c'est pour ça que l'expédition militaire s'appelle comme ça, Dhuqarad, par rapport à ce point d'eau qui avait été atteint par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, c'est là que le prophète il a égorgé une chamelle, une des chamelles qu'ils avaient ramenées, et ils sont restés à cet endroit-là, donc un jour et une nuit. Un jour et une nuit à cet endroit-là, puis ils sont retournés à Médine. Donc ça, c'était le troisième événement, la razwa de Dhi Qarad. الآن نذكر الرابع إن شاء الله تعالى وهي صده عن العمرة. قال الناظم رحمه الله وصد النبي صلى الله عليه وسلم أي وصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته لما قصد أي لما قصد مكة معتمرا وكان ذلك في سنة السادسة من الهجرة في غزوة الحديبية حيث خرج عليه الصلاة والسلام في ألف ونيف من أصحابه رضي الله عنهم ولم يتيسر لهم العمرة في تلك السفرة وتصالحوا مع قريش على شروط ويكون الاعتمار من العام القابل ولم يعتمر صلوات الله وسلامه عليه في تلك الغزوة وكانت هذه الهدنة التي بينه وبين المشركين تعد من الفتوح العظيمة كما قال ذلك ابن مسعود radiyallahu anhu wa ghayruhu. Donc on va passer maintenant à la quatrième au quatrième événement de toujours donc de la même année, hein, c'est-à-dire de la sixième année, na'am, d'accord, qui est donc la l'empêchement des koufars envers les musulmans de faire la Umrah. D'accord? Dans cette année-là, la sixième année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Mecca pour faire l'Umrah. Mais ils en ont été empêchés. D'accord? Donc ça, c'est le quatrième événement. Donc lorsqu'il dit Wasudda, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été empêché de faire sa Umrah lorsque, donc il est parti en direction de Mecca pour faire l'Umrah. Donc ça s'est passé durant la sixième année de l'Hégire, durant l'expédition militaire de l'Hudaybiyah. D'accord? Lorsque le prophète, donc, il est sorti, sallallahu alayhi wa sallam, avec 1000 et quelques compagnons. Donc, il y avait avec lui 1000 et quelques compagnons. Mais, comme on a dit, ils n'ont pas pu faire l'Umrah durant ce voyage-là. Mais malgré ça, ils ont réussi à faire une trêve avec les mécréants de Quraysh et à émettre des conditions pour cette trêve. Et donc, parmi les conditions de la trêve, est qu'ils ne pouvaient pas faire la Umrah cette année-là, mais qu'ils pouvaient revenir l'année prochaine pour la faire. Et donc, cette année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu faire l'Umrah durant cette sortie. Mais il faut savoir que cet accord de trêve entre les musulmans et entre les polythéistes est considéré comme parmi les plus grandes avancées, les plus bénéfiques pour la communauté musulmane, comme l'a dit Ibn Mas'ud et autres que lui. Donc, c'est-à-dire que cette trêve qui a été conclue entre le prophète salam, et les polythéistes de Quraysh a été une des plus grandes causes de victoire pour les musulmans. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بينا. طيب الآن إن شاء الله سنذكر الحادثة الخامسة وهي بيعة الرضوان. وبيعة الرضوان أول أي قبل صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عثمان إلى مكة لتفاوض مع المشركين في أمر عمرته صلى الله عليه وسلم، ونقل إلى المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على القتال، وتسمى تلك البيعة بيعة الرضوان، وفيها نزل قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Donc après il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, donc ici c'est, on va parler du cinquième événement qui est l'allégeance de Ridwan, l'allégeance de Ridwan. D'accord? Donc d'abord, c'est-à-dire avant la trêve de l'Hudaybiyah, il y a eu cette allégeance qu'on appelle Bay'atul Ridwan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé, d'abord il avait envoyé Uthman à la Mecque pour donc parler et négocier avec les polythéistes au sujet de l'Umrah qu'il voulait faire. Taïm. Mais il y a des rumeurs qui tournaient et qui sont parvenues aux oreilles des musulmans. Et cette rumeur était que Uthman avait été assassiné. Avait été assassiné par les polythéistes. Et donc, à partir de là, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a accepté le serment d'allégeance des nobles compagnons de partir, donc, combattre les polythéistes. D'accord? Donc, cette bay'a, ce serment d'allégeance, on l'appelle le serment d'allégeance de Ar-Ridwan. De Ar-Ridwan, et de la de l'agrément. Hein? Et d'ailleurs, c'est un verset d'Allah tabarak wa ta'ala qui est descendu à propos de ce serment d'allégeance dans la sourate Al-Fath, verset numéro 18, dans lequel Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit, dans le sens rapproché, certes, Allah a agréé les croyants, lorsqu'ils ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre, il sait ce qu'il y a dans leur cœur, il a descendu la sérénité sur eux et les a récompensés d'une victoire très proche. Une victoire très proche. Et on verra, Yanni, c'est quoi cette victoire très proche? C'est pour ça qu'on dit que cette trêve, c'est l'une des causes de l'une des plus grandes avancées pour la Umma islamique. ثم قال وبنى فيها أي هذه السنة بريحانة وهي بنت زيد رضي الله عنها التي سبق ذكرها وذكر تحقيق ابن القيم رحمه الله تعالى أنها من إمائه ولم تكن زوجة له صلوات الله وسلامه عليه وهذا بين أي في الأخبار التي وردت في هذا الباب بيجي للشيخ لوتار رحمه الله تعالى Et durant cette année, donc la sixième année de l'Hégire, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a consommé le mariage avec qui? Avec Rayhana. Donc Rayhana, on avait déjà parlé la semaine dernière, on avait parlé de son mariage avec Rayhana, qui est Rayhana bint Zayd. Voyez? Et donc durant la sixième année, c'est là qu'il a consommé son mariage. Et on a vu également que la parole la plus correcte par rapport à Rayhana, c'est que ce n'était pas une de ses épouses, mais plutôt une de ses esclaves. Tayyib, c'est donc l'avis qui a été rapporté notamment par Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. D'accord ? Wa hadha buyyina, c'est-à-dire ceci a été exposé, c'est-à-dire toutes les informations à ce sujet ont été exposées, alhamdoulillah. ثم قال الناظم رحمه الله وفرض الحج بخلف فاسمعه وكان فتح خيبر في السابعة نعم طيب وفرض الحج إذن هذه هي الحادثة السادسة بناؤه ودخوله بريحانة هذه السادسة والسابعة Fardu al-Hajj. Donc on a vu le sixième événement qui était donc la consommation du mariage avec Rayhana, donc soit du mariage, soit avec son esclave, et le septième événement qui est l'obligation du pèlerinage. Fardu al-Hajj. طيب. وقال هنا وفرض الحج في سنة السادسة بخلف أي في ذلك خلاف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الفصول وكان فرض الحج في سنة السادسة في قول بعض العلماء وفي التاسعة في قول آخرين منهم وقيل سنة عشر وهو غريب وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة طيب donc il dit l'auteur رحمه الله تعالى et le pèlerinage a été rendu obligatoire c'est-à-dire qu'avant il n'était pas encore obligatoire Donc le pèlerinage a été rendu obligatoire durant la sixième année. Bikhulfin. Mais il précise quand même l'auteur, Bikhul. C'est-à-dire, il y a divergence là-dessus. Il y a divergence sur la date à laquelle le pèlerinage a été rendu obligatoire par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il dit, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Fusul, il dit que l'obligation du pèlerinage a été établie la sixième année de l'Hégire, selon certains savants. D'autres ont dit la neuvième année de l'Hégire, et d'autres ont dit la dixième. Wa huwa gharib. Ibn Kathir dit, et ceci est assez marginal. Mais il est encore plus marginal que cela, ce qu'a rapporté Imam al-Haramayn, qui est l'imam al-Juwayni, dans son livre Nihaya. Il a rapporté un des avis de certains de ses camarades comme quoi l'obligation du pèlerinage aurait été établie avant même la Hijra. Donc lui a rapporté un avis qui dit que le pèlerinage avait été rendu obligatoire avant même la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, comme il a dit, c'est l'avis le plus marginal, hein, le plus étrange. Taïb. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. وكان فتح خيبر في السابعة، أي في سنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. فلما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من ذكر حوادث سنة السادسة من الهجرة، أتبعها بذكر حوادث سنة السابعة منها، فذكر فيها 12 حادثة. Donc, après que le prophète, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a terminé de mentionner les événements de la sixième année, il commence bien sûr, logiquement, à citer les événements de la septième année. Donc là, on rentre dans la septième année de l'Hijr. Et il va en citer, inshallah ta'ala, 12. 12 événements qui se sont déroulés durant la septième année. الأولى فتح خيبر. الأولى فتح خيبر. Donc le premier événement de la septième année, la victoire de خيبر ou la conquête de خيبر. طيب. Durant la septième année de l'égir du prophète صلى الله عليه وسلم. Et ça c'est l'avis de la majorité des ulama رحمهم الله. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد. قال موسى ابن عقبة ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج غازيا إلى خيبر، وكان الله عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية. وقال مالك كان فتح خيبر في سنة السادسة، والجمهور على أنه في السابعة. Donc il dit l'imam Ibn Qayyim رحمه الله dans son livre Zad, il dit Moussa ibn Uqba a dit: lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, est arrivé à Médine, en provenance de l'Hudaybiyah, lorsqu'il était donc à l'Hudaybiyah, et qu'il est arrivé à Médine, hein, il y est resté 20 nuits, ou à peu près 20 nuits, aux alentours de 20 nuits à Médine. Puis il est reparti avec une expédition militaire en direction de Khaybar. Comme Allah tabarak wa ta'ala donc lui a promis la victoire dans la sourate que l'on a vu tout à l'heure, Al-Fath, lorsqu'Allah jalla wa ala donc il a dit wa athabahum fathan qariba, hein, et on leur a donné une victoire très proche. Donc une victoire très proche, c'est quoi? C'est celle de Khaybar. C'est la victoire de Khaybar. Tayyib. Il dit l'imam Malik que la victoire de Khaybar s'est déroulée durant la sixième année. Mais la majorité des savants disent qu'elle s'est déroulée la septième année et non la sixième. طيب. ثم قال الناظم رحمه الله وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية. إذن هذه هي الحادثة الثانية وهي تحريم لحوم الحمر الأهلية. قال الناظم رحمه الله وحظر أي أكل لحم الحمر الأهلية كان فيها أي في سنة السابعة من الهجرة، ومتعة النساء أي وحظر متعة النساء فيها أيضا، الردية أي الفاسدة من ردوء رداءة فسودة فهو رديء. Puis on va mentionner ici le deuxième événement de la septième année qui est l'interdiction de la consommation de la viande des ânes domestiques. L'interdiction de consommer la viande de l'âne domestique. طيب. Donc, وحظر, c'est-à-dire la prohibition, l'interdiction de la consommation de la viande d'âne domestique. كان فيها, c'est-à-dire durant cette année-là, c'est-à-dire la septième année de l'Hijr. Et également, il y a eu ce qu'on appelle l'interdiction de mut'at al-nisa, de mut'a. Donc, le mut'a, c'était une sorte de mariage qui était faite par les Arabes à l'époque pré-islamique, avant l'islam. Ils faisaient un genre de mariage qu'on appelle Al-Muta'a, que certaines sectes aujourd'hui font encore, Allah al-Musta'an, qui était donc lorsqu'ils se mariaient avec une femme, ils se mettaient d'accord avec elle pour être mariés durant une certaine période. Donc ils se mettaient d'accord sur une dot et sur un temps de mariage, qu'après ce temps de mariage-là, eh bien ils se sépareraient. Par exemple, ils se marient pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, après ils se séparent. On l'appelle al-muta'a. Donc à l'époque pré-islamique, les Arabes avaient l'habitude, ou certains faisaient ce genre de mariage. D'accord? Et bien à partir de la 7e année ici de l'Hégire, cela a été totalement interdit. Et ce genre de contrat de mariage, il dit radiya, c'est-à-dire il est fasida. Il n'est pas valide, il est corrompu, il n'est pas accepté. Taïeb? Non. وكان ذلك يوم خيبر فقد ورد في ذلك أحاديث منها ما في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. Et donc, ces deux interdictions-là sont déroulées, يعني l'interdiction de la consommation de l'âne domestique ainsi que al-mut'a, s'est déroulée durant le jour de Khaybar. Jour de Khaybar, comme cela a été mentionné dans les deux authentiques, dans certains hadiths, notamment celui rapporté par Ali ibn Abi Talib ibn radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le mariage qu'on appelle al-mut'a, le jour de Khaybar, et également il a interdit la consommation des ânes domestiques. Na'am. ثم قال الناظم رحمه الله ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد ثم على أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. Donc ça c'est le troisième événement de la septième année, ou le quatrième événement de la septième année, parce que le premier c'était la victoire de Khaybar, le deuxième c'était l'interdiction de la consommation des ânes domestiques, le troisième c'était l'interdiction de quoi? Al-Mut'a. Et le quatrième c'est donc son mariage avec Ummi Habib. Son mariage avec Ummi Habib. Taïb, il dit l'auteur Rahimahullah, Thumma ala Ummi Habib. Ensuite, il a conclu contrat de mariage avec Ummu Habiba qui s'appelle Ramla. Son prénom c'est Ramla bint Abi Sufyan radiyallahu anhuma. Aqad, salawatullah salam alayhi. C'est-à-dire que le prophète, il a conclu, il a procédé donc au mariage avec Umm Habiba. Wa mahraha anhu an-najashi wa naqad. Ay anna an-najashi huwa alladhi dafa'a mahraha lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, et sa dot, il dit le mahr, la dot pour Umm Habiba, eh bien, il faut savoir que c'est an-najashi. C'est an-najashi, donc le roi. Hein, le roi d'Abyssinie à l'époque, c'est lui qui a versé la dot pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ummu Habiba. C'est lui qui a donc donné la dot à Ummu Habiba pour le prophète alayhi salat wa salam. Na'am. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi zad al-ma'ad thumma tazawwaja Ummu Habibata واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر ابن حرب القرشية الأموية وقيل اسمها هند تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار وسيقت إليه من هناك. يزيد بن القيم رحمه الله تعالى وفي النسخة إن شاء الله تصوليف زاد المعاد. Il dit ensuite, il a épousé Umm Habiba, dont le prénom est Ramla, bintu Abi Sufyan, Sakhr ibn Harb, al-Qurashi, al-Qurashiya, al-Umawiya. Certains disent également qu'elle s'appelle Hind. Certains disent qu'elle s'appelle Hind et d'autres Ramla. Et donc, il l'a épousée alors qu'elle était encore en Abyssinie. Donc, elle était encore en Abyssinie, hein, auprès du Najashi. Et des musulmans qui étaient à l'époque émigrés en Abyssinie. Et d'ailleurs, on a dit encore une fois, c'est An-Najashi qui a versé la dot pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était de 400 dinars. Qui était de 400 dinars. Et puis donc, elle a été amenée de l'Abyssinie jusqu'au prophète, alayhi salatu wa salam. Naam. Donc, on a cité ici quatre événements de la septième année, donc il nous en reste encore 8. Parce qu'on a dit qu'il y en avait 12 en tout. Il nous reste encore 8 événements de la 7e année à mentionner, inshallah ta'ala. Donc je résume. Le premier, c'est la victoire de Khaybar. Le deuxième, l'interdiction de la viande des ânes domestiques. Troisième, l'interdiction de Al-Mut'a. Et le quatrième, son mariage avec Ummu Habibata radiyallahu anha. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.